Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Par où commencer quand on veut mettre un potager en route? Non, il ne s'agit pas de tout retourner pour préparer la terre comme si elle avait attendu la bêche pour être prête. Il ne s'agit pas non plus de débroussailler. En fait, nous allons commencer par observer. Prendre le temps de voir, d'entendre, sentir, réfléchir à ce qu'on a, à ce qu'on veut aussi, parfois. Et qu'allons-nous observer? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comme le temps est beau, nous allons sortir avec Hélène et Titane. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour Titane.
Bonjour Floem. Bonjour.
Nous allons nous livrer à un exercice d'observation du grand terrain qui environne le studio et qui deviendra au fil des saisons notre jardin. Mais d'abord, c'est le moment des réponses à vos questions d'auditeurs, questions que nous prenons sur les réseaux, mais que vous pouvez aussi adresser à questions@radioperma.org. Question que nous allons donc adresser à Hélène. La première question nous vient d'un monsieur qui s'appelle Thibaut Thib. Oui, c'est la joie des réseaux. Nous avons des merveilleux pseudos de nos jours. C'est croquignolet. Et la question de monsieur Thibaut Thib, prise sur permaculture, solution définitive, etc. Peut-on mettre des coquilles d'œufs et des miettes de boue de pain industriel au compost?
Ok. Alors, on peut commencer par la fin. Les miettes de pain industriel, c'est rigolo, parce que là où ce sera le plus embêtant, c'est surtout pour celui qui mange le pain. Les miettes de pain, ça n'empêchera pas le compost de composter, donc on peut mettre les miettes de pain. Et en ce qui concerne les coquilles d'œufs, on peut les mettre, mais il faut les écraser avant pour qu'elles soient broyées, parce que sinon, on va les retrouver très très longtemps après. Elles n'auront pas bougé du tout, elles ne se seront pas transformées, donc ça n'ira pas. Mais sinon, de façon générale, dans un compost, on peut mettre un maximum de choses différentes. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. C'est parce que plus ça va être composé et diversifié, et mieux ça va fonctionner. Donc, il n'y a pas de souci pour mettre l'un et l'autre.
Ok. Question suivante. Une question autour des jardinières de Ludovic, qui est sur le groupe Permaculture France. Bonjour, dans mes petites jardinières que j'ai rentrées à cause du froid, j'ai planté des graines de coriandre. Cependant, il y a plein d'autres petits trucs qui poussent, ce que beaucoup appellent des mauvaises herbes. Ok, en perma, on laisse faire la nature, on ne retire pas ces plantes qui ont sûrement un rôle important. Mais pour mes jardinières, je fais quoi? La quantité de terre disponible pour les plantes est relativement faible. La partager avec d'autres plantes ne risque-t-elle pas d'être néfaste pour ma coriandre? Et Ludovic a une deuxième question. Qui est autour de ses semis. J'ai fait des semis dans mon appartement, dans une jardinière, en Corrèze. J'ai, suite au conseil d'un ami, recouvert la terre de feuilles mortes. Dans ma jardinière, les petites pousses montrent le bout de leur apex. Alors, on verra si l'apex, c'est les racines, ou si c'est le haut de la petite tige. Mais j'ai remarqué aussi qu'entre la terre et les feuilles, il y a des filaments, des toiles denses de tissu, entre guillemets, ce sont sûrement des champignons. Je laisse faire et je ne touche à rien, point d'interrogation. Les champignons ne risquent-ils pas de s'attaquer aux jeunes plantes? Donc, d'un côté, est-ce qu'on laisse faire les champignons quand ils sont dans le paillage, ou bien, et puis, la deuxième question, qui était plutôt la première d'ailleurs, est-ce que je retire les plantes, les mauvaises herbes de mes jardinières quand elles sont dans mes jardinières?
Donc déjà, les mauvaises herbes, on peut peut-être en toucher deux mots parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire que des mauvaises herbes, c'est des bonnes herbes qui ne sont pas à la bonne place.
C'est pour ça peut-être que Ludovic avait mis « mauvaises herbes » entre guillemets.
Voilà, donc on peut mettre des guillemets effectivement. Mais par contre, quand on est dans une jardinière, on est en milieu artificiel, quoi. Donc on n'a pas les avantages qu'on a quand on est en pleine terre. Et en particulier, donc quand on va avoir plein d'herbes, comme ça, de graines qui vont pousser. Et on va y avoir quand même une concurrence avec les plantes qu'on aura semées. Donc, si, je pense que ce serait moi avec ma jardinière, j'enlèverai les plantes et je les coucherai, je les laisserai sur place et je les coucherai au pied du coriandre ou de ce qu'on a cultivé, ce qu'on a mis en culture, ce qui fait aussi que ça protégerait le sol, quoi, la surface de la terre.
D'accord, tu t'en servirais un peu comme paillage.
Comme paillage, voilà. Et puis par contre, dans l'autre question où le paillage finalement a fait un contre-effet, parce qu'il y a trop d'humidité, donc les champignons, c'est pas toxique ou mauvais en soi, mais là, visiblement, il y a eu beaucoup de feuilles, donc une espèce d'imperméabilisation à la surface de la terre. Et dans une jardinière comme dehors, en fait, c'est important que l'air circule. Et si les champignons se développent, c'est quand même qu'il y a trop d'humidité. Donc peut-être qu'elle peut garder, des petits coins avec des champignons pour faire des expériences, mais pour la plante et les racines des plantes qui sont cultivées, ça va être nuisible, quoi.
D'accord. Ça risque de s'attaquer à ces plantes-là ? Ou est-ce que c'est l'humidité qui risque d'être nuisible ?
Oui.
Est-ce que c'est l'humidité qui risque d'être nuisible aux racines ? Ou est-ce que c'est les champignons qui risquent d'être
nuisibles
aux racines ?
Non, c'est l'humidité qui est favorable aux champignons et qui risque d'être nuisible pour les racines qui, elles, ont besoin d'air. Donc le sol va être trop tassé, va être asphyxié, et c'est ça qui va être nuisible. Et s'il y a des problèmes après, de parasites et tout ça, de maladies, ça va être lié à l'asphyxie et au trop d'humidité, mais pas aux champignons directement. Oui. Au contraire, les champignons, finalement, c'est un indicateur disant qu'il y a trop d'humidité dans la jardinière et qu'il y a quelque chose à faire pour alléger un petit peu, aérer ou quelque chose, quoi.
D'accord. Donc, ces champignons-là qui s'attaquent aux feuilles mortes et à son paillage ne risquent pas forcément de s'attaquer aux graines ?
Oui, les champignons, ils attaquent personne, là. Simplement, ils se développent parce que le milieu leur est favorable. Mais ils ne sont pas dans une logique d'agression, d'attaquer les personnes, la terre ou les plantes qui sont là. Simplement, le milieu est bon pour eux, donc ils poussent, c'est tout.
C'est peut-être parce qu'il y a une confusion dans la tête de notre auditeur entre la moisissure qu'on peut trouver sur certaines denrées et puis qui font pourrir la chose et les champignons qu'on peut trouver dans la litière ou les champignons de type mycorhize dont on a pu parler dans les émissions précédentes.
Oui, peut-être, parce que champignons, c'est un terme très vague. Hein. Mm-hmm. Donc effectivement, il peut y avoir des moisissures qui sont toxiques, mais toutes les moisissures ne sont pas toxiques. Les champignons, c'est pareil, il y en a qui sont mauvais, d'autres qui sont bons. Donc il n'y a pas assez de précision pour répondre à ça. Mais vu ce qui est dit avec les feuilles mortes et tout ça, je pense que c'est plutôt du mycélium qui se développe. Parce que le milieu est favorable.
Oui, les toiles denses en forme de tissu, ça ressemble vraiment à du mycélium.
Oui, c'est du mycélium qui se développe, quoi.
Mm-hmm. D'accord.
Et c'est pas une attaque.
C'est pas une attaque. Ok, chouette. Par contre, l'humidité, il faut faire attention.
Il faut pas qu'il y en ait trop, quoi, parce que sinon, ça asphyxie les racines et du coup, les mycorhizes, les fameux champignons aussi, enfin tout ce qui est, comment on peut dire, microscopique au niveau des champignons et qui est important pour la plante, eh ben ça peut pas se développer correctement, quoi.
Par manque d'air,
parce
à cause
de parce qu'il y a pas le milieu, conditions favorables.
Ok. Bon, et ben voilà pour les questions que nous avons aujourd'hui. On a même un petit peu de temps pour en faire une autre. Pourquoi pas une question compost. Il y a beaucoup de questions compost en cette saison. Question compost. Alors c'est une question de Ludo. Encore un Ludo. Bonjour à tous, voilà, j'ai fini mon bac à compost en palette, mais j'ai plusieurs questions. Bon, alors pensez-vous qu'il soit assez aéré ? Alors Ludo a adossé son composteur, composé de 3 palettes, à un mur en béton et laissé un espace entre les planches de 1 à 5 cm environ. C'est un composteur en palette en somme. Est-ce que c'est suffisamment aéré selon toi ça ?
Difficile à dire comme ça, mais à mon avis, oui, en tout cas, ça peut fonctionner. Après, ce qui va faire que ce sera suffisamment aéré ou pas, c'est aussi ce qu'il va mettre à l'intérieur, c'est-à-dire s'il met que des matières humides, des épluchures, etc., de toute façon, ce sera trop humide. Par contre, s'il a de la matière sèche, etc., ça va bien se passer, quoi, condition qu'il en ait suffisamment.
Ah, du coup, tu es en train de répondre à sa deuxième question. Pour commencer, j'ai mis une couche de BRF, donc de bois raméal fragmenté, une de déchets ménagers, pelures, fruits, légumes, et une couche de feuilles mortes. Et il se demandait, est-ce que j'ai bon ? Et je t'entendais rire à BRF. Qu'est-ce qui te fait rire sur BRF ?
Parce que je pense pas qu'il ait mis BRF. En fait, c'est pas que ça veut dire bois raméal fragmenté, d'accord ? Mais ça veut dire aussi qu'il y a tout un protocole qui est mis en place sur le moment où on va couper, la grosseur des rameaux, etc. Et ensuite, un protocole de l'utilisation de ce bois raméal. Alors qu'en fait, je pense que lui, ce qu'il a, c'est du broyat. Et très souvent, il y a une confusion entre les deux. Et le broyat, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est du bois qui a été broyé souvent vert parce que les machines aiment mieux, mais pas forcément pris à l'automne, enfin dans des saisons, ni à des grosseurs qui sont celles du BRF. Donc je pense que c'est du broyat, donc c'est de la matière sèche, quoi.
D'accord.
Donc après, oui, c'est bien de mélanger matière sèche, feuilles, etc. quoi. Tout type de matière sèche. Quoi.
C'est bien pour commencer un compost.
Oui, c'est bien de mettre ça au fond. Et puis après, de bien étaler chaque fois qu'il va mettre des épluchures, de ne pas faire des gros paquets. C'est-à-dire quand il va jeter son seau d'épluchures, eh ben, l'étaler et puis remettre un petit peu de matière sèche par-dessus. Ce qui lui évitera après d'avoir des moucherons et des choses désagréables, des odeurs et tout ça. Quoi.
Titane.
Oui, pour le compost, j'ai des sons de cloche différents, je vais dire, en disant oui, il faut, non, il ne faut pas mettre ces pelures d'agrumes et ces eaux, par exemple, dans le compost. Alors, Hélène, peux-tu me dire ce qu'il en est ?
Non, non, ce qui me fait rire, c'est les os, non, les tiens, vaut mieux les garder.
Les os, on les garde, on les donne aux chiens.
Alors après, les, oui, bon, on peut mettre, dans la compost, on peut mettre tout ce qu'on veut, à condition que ça soit organique. Donc on peut mettre des os, on peut les brûler, parce que ça va apporter des éléments minéraux en plus. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Après, c'est une question de proportion. Donc les agrumes, on peut les mettre, mais dans les agrumes, il y a des huiles essentielles. Ces huiles essentielles, elles bloquent, par définition, la multiplication des micro-organismes. Donc là, comme le compostage, c'est le contraire, on veut qu'il y ait un développement de micro-organismes, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc tout ce qui va être défavorable, on va dire, à la fermentation et au compostage, on dit au maximum 10% du volume. D'accord. Donc on peut mettre jusqu'à 10% de peau d'agrumes, par exemple. Mais par contre, il faudra les couper, parce que sinon ça va être très 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 long à dégrader aussi. Hein. Mais d'accord. On peut les mettre.
D'accord, ben,
on
merci.
Peut, on peut vraiment tout mettre.
D'accord, merci. Mmh.
Merci pour ces réponses à ces questions. Je vous rappelle que vous pouvez écrire questions@radioperma.org pour nous envoyer vos interrogations. Nous tâcherons de répondre à ce que nous recevrons. Nous allons, pas plus tard que maintenant, aller au jardin. On va vous faire une petite pause musicale le temps que nous bougions en direction de la verdure. Alors aujourd'hui, le disque que nous vous avons concocté, c'est un disque d'un groupe qui s'appelle Noctam, de l'album Les Ribains Éclairés, un groupe de folk d'inspiration celtique avec de la harpe, du violon, de l'accordéon. On va vous laisser découvrir tout ça. Le titre, c'est Entnose. À tout de suite dans le jardin. Thank you. Nous voilà sur la terrasse de la radio, à l'extérieur, donc vous allez entendre tous les bruits qu'il peut y avoir à l'extérieur d'une radio, de la route aux oiseaux, mais surtout je suis avec Hélène, qui a amené tout son matériel pour faire de l'observation du jardin. Alors Hélène, pourquoi c'est important de faire l'observation dans un jardin, avant même de commencer à faire du jardin ?
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, on va observer un lieu qui n'est pas encore un jardin, et très souvent, les gens, ça va leur arriver soit au début, parce qu'ils ont déjà un terrain et qu'ils veulent le transformer, soit qu'ils arrivent quelque part. Pourquoi c'est important d'observer ? Parce que c'est ça qui va nous donner les indications de où est-ce qu'on va pouvoir cultiver dans le jardin, qu'est-ce qu'on va pouvoir cultiver en fonction de différents critères, qu'est-ce qu'on va garder dans les plantes, qu'est-ce qu'on va enlever, comment on va organiser son lieu, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Et ensuite, au niveau de l'observation, qu'est-ce qu'on va observer ? Donc, là, ce qui est bien, parce qu'on est sur un petit promontoire, ce qui est bien, c'est de pouvoir déjà regarder globalement comment se situe ce jardin. Donc là, ben, effectivement, il y a des bruits. Donc on va regarder déjà tout l'environnement extérieur au jardin, on va dire. C'est-à-dire que là, il y a des voisins. Alors, on ne sait pas s'ils sont sympas ou non. Ça sera quelque chose à savoir.
C'est important d'avoir des voisins sympas.
Ah, après, si on a des voisins pas sympas, ça fait travailler sur soi. C'est important aussi. Mais quand ils sont sympas d'emblée, c'est pas mal. Et donc là, on voit par exemple qu'il y a des poules, hein, je crois, qui sont là, des animaux. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air d'aimer donc déjà les bêtes, qui chauffe au bois, qui a un petit peu de terrain où il bricole un peu aussi. Donc, voilà. Donc, voir un petit peu tout ça. Voilà. Là, il y a une route qui passe pas loin, donc on sait que c'est pas très agréable. Surtout que là, on est en automne, il n'y a pas de feuilles. Donc, je pense que l'été, il y en a moins. Enfin, la saison de jardin, il doit y en avoir moins. Donc ça nous donne aussi des indications sur les nuisances qu'il peut y avoir dans ce jardin. Donc ça, c'est une indication qui est en lien directement avec ce qu'on a sous les yeux. Parce que par exemple, il y a des arbres, ça veut dire qu'on ne va pas s'amuser à couper tous les arbres. Indépendamment de tous les autres critères qu'on verra après, on ne va pas commencer par tout raser, comme il y en a qui font par exemple.
Pourquoi on ne s'amuserait pas à tout raser d'ailleurs ?
Donc on finit pas sur l'extérieur. Okay, c'est pas grave.
Non, si, continuons sur l'extérieur. Donc, je garde cette question bien au chaud
non,
pour
non,
plus
non,
tard.
Bon,
alors qu'est-ce que à l'extérieur ? Non, mais continuons d'observer. Nous avons donc de ce côté-ci un voisin, mais nous avons d'autres choses.
Voilà, nous avons donc pas mal d'arbres, beaucoup de feuillus, donc quelque chose à conserver par rapport à cette nuisance sonore. Ensuite, sur le plan global du paysage qu'on voit, bah, moins d'un kilomètre, il y a une colline boisée avec des résineux et qui fait donc une espèce de barrière au fond du jardin. Donc ça va être pris en compte aussi. Après, ce qu'on n'a pas dit du coup, et que moi je trouve qu'il est important quand on arrive quelque part, qu'on soit chez soi ou qu'on arrive quelque part, c'est ce qu'on va ressentir sur le lieu. Et par exemple, alors je ne sais pas, vous qui êtes là aussi, hein, vous direz votre avis, mais moi je trouve que c'est un endroit qui est assez, bon pas oppressant, mais assez fermé, assez... Voilà, spontanément j'aurais envie d'alléger, de mettre de la lumière, de...
De couper des arbres.
Voilà, mais pas tous, et pas n'importe lesquels. Alors justement, par rapport aux arbres, ce qui est, pour moi est important, c'est de regarder s'il y a une continuité. Alors justement, on a, en même temps c'est une barrière, là, cette colline, mais en même temps c'est la nature. Même s'il y a une route qui passe et tout ça. Donc là, on n'est pas tout à fait assez haut pour voir la continuité qu'il y a entre là où nous sommes et cette nature. Et ça, c'est un point très, très important. Parce que dans l'agroécologie, on va avoir besoin de ce qu'on appelle les auxiliaires, donc c'est-à-dire des animaux, des insectes, etc., qui vont nous aider à faire du jardin. C'est pour ça qu'on les appelle les auxiliaires, parce qu'ils nous aident. Et ils vont nous aider en étant des prédateurs de nuisibles qui peuvent être présents. Mais ces auxiliaires, il y en a beaucoup qui ont quatre pattes, qui ont besoin de se déplacer. Et pour se déplacer, il faut qu'ils soient à l'abri, donc pas de route à traverser. Donc là, je ne sais pas s'il y a une route qui passe là-bas, devant nous. Ouais.
On voit que la route n'est pas très loin, là-bas, au bout
c'est
du terrain.
C'est pas un parking, là-bas ?
Je ne sais pas. Il faut peut-être qu'on aille voir.
Ouais, ce serait bien d'aller voir. Mm-hmm. Alors, peut-être pas tout de suite. Oui, donc ce que je disais, en fait, qui est important, c'est cette continuité pour abriter la faune qui va donc venir dans notre jardin, enfin, qu'on espère attirer dans notre jardin. Parce qu'ils vont nous aider par rapport à la santé de nos cultures. Quoi. Donc si elle n'existe pas, cette continuité, eh ben, on va éventuellement la créer, quand c'est possible. Si ce n'est pas possible de la créer, eh ben, ce qu'on va faire, c'est avoir un jardin dans lequel il y aura un maximum d'abris ou d'endroits qui vont attirer ces auxiliaires. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, alors avant de passer à des choses peut-être plus sur la biodiversité et tout ça, il y a l'orientation du jardin qui est importante aussi. C'est-à-dire que là, en principe, les gens savent s'orienter chez eux. Nous, on n'est pas chez nous, là, donc... mais bon, apparemment, enfin, le soleil a l'air par là, donc là, il se lève est-sud-est, on va dire.
On a une boussole, donc, aussi.
Voilà, oui, on peut avoir une boussole, que je ne l'ai pas trouvée avant de partir.
La mienne est dans mon sac, nous sommes des reporters piteux.
Mais en général, on sait à peu près s'orienter chez soi. Donc, on va dire que là, c'est le sud-est, donc le sud, on doit être à peu près plein sud, là.
Ouais, quasiment.
Près, hein.
Ouais.
Donc ça c'est pas mal. Après on peut regarder le vent. Donc
pourquoi
là...
c'est pas mal?
Parce que comme c'est un endroit qui est quand même, je disais, l'impression c'est un peu que c'est fermé, que c'est humide, c'est un peu froid, qu'il y aurait besoin de lumière et tout ça. Être face au sud, ça va permettre donc d'avoir de la lumière. C'est pas comme si on avait, enfin, quelque chose de le mur, le voisin, quelque chose qui ferme les immeubles comme on voit pas loin, qui nous ferme l'accès au soleil. Voilà, parce que le soleil, le sol, tout ça, ça marche ensemble. Hein.
Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est plat comme terrain. Il n'y a pas spécialement de pente, donc on ne va pas pouvoir beaucoup utiliser la gravité. Mais en même temps, on n'aura pas non plus besoin de bouger trop de terre à essayer de faire des terrasses ou des choses comme ça, j'ai l'impression.
Oui, oui, on n'aura pas de gros terrassements, il n'y aura pas de grosse érosion non plus. Et puis de toute façon, là, ce qu'on va voir ensemble, c'est du jardin agroécologique. Donc dans le jardin agroécologique ou l'agriculture écologique de façon générale, le sol est toujours couvert. Donc déjà, le fait qu'il soit couvert par de la végétation ou une couverture inerte, quelle que soit la couverture, on n'aura jamais le sol à nu, donc on n'aura pas d'érosion. Par contre, effectivement, on peut avoir des travaux à faire pour, s'il y a beaucoup de pentes, faire des talus, éventuellement des petits murets, enfin, aménager l'espace, quoi. Donc effectivement, là, non, c'est à peu près plat. Par contre, donc, je reviens sur cette biodiversité. Puisque nous, ce qu'on fait pour avoir justement ce maximum de diversité aussi au niveau des auxiliaires, des nuisibles, enfin de tout ce qui va faire notre jardin, on va créer un maximum d'écosystèmes différents. Un écosystème, c'est quoi? Ça peut être, c'est un lieu, en fait, un milieu dans lequel vont pousser des plantes et vivre des animaux, que ce soit des oiseaux, des insectes, enfin tout type d'animaux, très spécifiques. Et en fait, c'est à la lisière entre deux écosystèmes qu'on va avoir le plus de biodiversité. C'est pas dans un écosystème. Par exemple, souvent les gens disent, ben, la forêt tropicale, c'est là où il y a le plus de diversité. Mais non, là où il y a le plus de diversité, ça va être à la lisière entre la forêt et le milieu d'à côté. Parce qu'il y aura en même temps la faune et la flore d'un écosystème, la faune et la flore de l'écosystème d'à côté. Donc c'est deux flores et faunes spécifiques. Et dans la lisière, il y aura encore de la flore et de la faune qui seront encore différents. Donc on va augmenter la biodiversité. Donc ce qu'on va regarder là, c'est qu'est-ce qu'on a comme écosystème qui existe déjà. Parce que quand on arrive, il y a toujours quelque chose, enfin souvent quelque chose. Donc là, on voit déjà des arbres. Donc un arbre à lui tout seul, c'est un écosystème. Hein, c'est-à-dire qu'un arbre, de par ses racines et par de toute la partie aérienne, il va avoir une vie autour de lui qui va être spécifique. Hein, que ce soit donc les insectes, les oiseaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Plus en dessous du sol, il va y avoir des racines qui vont elles aussi être micro-écosystèmes. Donc si vous voulez, déjà un arbre, c'est un écosystème. Donc déjà là, on voit qu'il y en a plusieurs, donc ça c'est super. Ensuite, l'autre écosystème dont on parlera plus tard et qui va être essentiel, c'est le sol. Et quand on regarde là, on voit qu'il n'y a pas d'eau, ni eau stagnante, ni eau qui coule. On n'a pas la chance d'être au bord d'une rivière ou autre chose. Ça veut dire que l'écosystème aquatique va être à créer. L'idéal, c'est d'avoir en même temps de l'eau qui coule et puis de l'eau stagnante. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes milieux, ça ne va pas du tout apporter les mêmes bénéfices, ni apporter les mêmes animaux, la même flore, etc. Donc ici, tout de suite, ça va être quelque chose de voir comment on le crée et à quel endroit dans le jardin. Sachant qu'on disait tout à l'heure que c'est plat. Donc il y a des belles gouttières, il y a un grand toit. Il faut voir comment les chéneaux descendent de cette toiture et voir comment on pourrait récupérer de l'eau. Ça doit, à mon avis, on doit pouvoir en avoir. Il faudra aller voir de l'autre, juste derrière.
Eh bien, allons voir. Parce que ça, c'est quand même une des choses qui est majeure sur ce terrain, c'est qu'il y a quand même déjà une grosse bâtisse avec une grande surface de toit. Et le chenot arrive juste à côté du
jardin. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de faire. Voilà, c'est super. On peut faire. Enfin, bon, après, il y a des histoires d'autorisation, etc., etc. Mais... quand vous êtes chez vous, il n'y a pas ça. Donc, si vous avez une récupération et que l'eau descend, donc, vous pouvez brancher un système de récupération de pluie. Mettre une cuve, un système là, en plus, tout est, c'est facile, hein, franchement.
Oui, oui, ça vaut une centaine d'euros, basiquement.
Et même, ce qui serait le mieux ici, ce serait de faire la cuve en hauteur. Par exemple, si on pouvait la faire au-dessus là, du balcon où on est, là, il y a une terrasse.
Ouais.
Et je ne sais pas qui ça appartient. Mais si on pouvait mettre la cuve là, on aurait de la pression, du coup, pour arroser. Ce serait super. Parce que c'est pas compliqué, là, il y a combien de hauteur au moins?
Oh, là, il y a, une quinzaine de mètres.
Ouais. Ouais, ouais. Et ben donc, on pourrait être là, donc on serait à 3 mètres de hauteur, même un peu plus, on aurait donc, c'est combien déjà?
Un tiers de barre. Ça, donc ça fait donc une atmosphère, ça fait 10 mètres.
En tout cas, il y aura de la pression.
Ouais.
Et donc ça, c'est super.
Et ça suffit amplement pour arroser, parce que moi, je sais que chez moi, la cuve, elle est à 1 mètre de haut. Ça suffit pour avoir de l'eau pour, jusqu'à l'autre bout du jardin. Après, ça dépend ce qu'on a envie d'en faire.
Oui, puis ça dépend où est-ce qu'on est. Parce que tout le monde ne va pas forcément habiter à Bourgoin-Jallieu. Donc s'il y en a qui sont dans le sud de la France, il faut prévoir un peu plus d'eau. Même si on couvre le sol correctement... C'est vrai qu'on peut pas, enfin on peut pas. L'important, ça va être d'économiser l'eau qui est du ciel, on va dire, la pluie et l'eau qui est dans le sol. Mais il y a des endroits où, avec le climat, etc., ça pourra pas suffire. Même si on a des pratiques écologiques au niveau tout ce qu'on va voir ensemble, ça suffira pas. Donc les réserves seront plus ou moins importantes en fonction des pluies, de la périodicité des pluies. S'il tombe 700 mm d'un coup, puis après plus rien, bon ben voilà. Comment on stocke une grosse quantité d'eau et surtout comment on l'économise, quoi.
Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et puis qu'on reparle de l'eau juste après la pause. À tout de suite, restez avec nous.
êtes sur Couleur FM 97.1 et vous venez d'entendre à Pananmebian à Bian, bon, d'après un air traditionnel breton de Noctam.
Nous parlions avant la pause musicale de l'eau possible et disponible sur le terrain. Ça nous amène en direction du climat puisque Hélène, tu nous disais qu'il fallait parfois économiser l'eau de pluie. Ça va assez proche de la notion qu'on a en permaculture de ralentir les flux, de faire en sorte que l'eau, par exemple, reste le plus longtemps possible sur le terrain, qu'on s'en serve le plus longtemps possible de manière à minimiser les ressources nécessaires à utiliser. Parlons un petit peu du climat, en fait, ce qu'on voit peut-être autour de nous. Le ciel, on regarde le ciel quand on veut parler du climat ou pas?
Ça dépend, ça, on regarde plutôt la météo quand on regarde le ciel. Le climat, ce qui est important, c'est les vents. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent.
C'est quoi la différence entre la météo et le climat? Parce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, je pense.
Ah bon? Je sais pas, moi je ne suis pas météorologue, mais la météo, c'est de voir le temps qu'il fait à un moment donné, puis prévoir l'évolution de ce temps-là. Alors que le climat, c'est à un endroit donné, c'est le vent, la pluviométrie, les températures, etc. C'est un ensemble de facteurs généraux.
Et puis de manière statistique, parce que souvent, quand les gens ont l'impression qu'il fait chaud cet automne, ils disent « Ah, le climat s'est réchauffé !» Alors qu'on n'est pas du tout dans ce genre de considération, en fait.
Ouais. Non, le climat, là, c'est local, quoi. Surtout quand on fait du jardin, c'est le microclimat qui va nous intéresser. Donc là, on voit que justement, il y a un peu de vent qui s'est levé. Donc le vent dominant, ça va être important. De connaître le vent dominant, parce que souvent, à cette période de l'année, c'est pas très important, mais en plein été, s'il y a un vent du sud très fréquent, ça va dessécher les cultures. Donc comment on va se protéger de ce vent-là? Si on est dans le sud, par exemple, moi j'ai habité longtemps dans le Vaucluse, là il y a le Mistral, donc on est obligé déjà d'avoir des brise-vents. Parce que tout à l'heure, on parlait d'avoir plusieurs écosystèmes, donc il y a l'arbre, il y a l'eau, donc eau stagnante et eau courante, eau vivante, enfin de l'eau qui court, quoi. Et puis, l'arbre, il peut être tout seul, et sinon, il peut être organisé en haies. Donc, les haies, c'est très, très important dans le jardin. Donc, soit comme brise-vent si on a du vent, soit pour se protéger des voisins s'il y a besoin, parce que, par exemple, des voisins qui traiteraient beaucoup, ou qui font, n'importe quelle raison que ce soit, avoir des haies de protection. Et puis, les haies, ça va être justement un écosystème qui sera différent d'un arbre tout seul, parce que dans la haie, comme dans toute l'agroécologie, on va dire, si vous retenez que biodiversité, c'est la base, quoi. Donc dans une haie, on va créer de la biodiversité s'il n'y en a pas. Après, on peut avoir de la chance qu'il y ait déjà une haie. Par exemple, là-bas au fond, sur le côté au fond à gauche du jardin, on va dire, on voit qu'il y a pas mal de végétaux différents, des arbres de différentes hauteurs. Donc ça, c'est important d'avoir de la diversité d'arbres et d'arbustes dans une haie. Si on a beaucoup d'espace, l'idéal, c'est d'avoir une haie à trois niveaux. C'est-à-dire, vous avez une haie de grands arbres qui vont vous servir ou pas, que vous pouvez laisser pousser comme ça pour le plaisir, ou bien des fruitiers ou ce que vous voulez. Et puis après, il y aura un deuxième étage qui sera à peu près comme les noisetiers qu'on voit là. Donc, on va dire quoi, 1m50 à peu près. Hein. Donc là, qui va être assez espacé pour que tout le monde puisse pousser à avoir son espace. Et puis encore devant, vous aurez par exemple des petits fruits, des choses comme ça. Donc un étage un peu plus bas qui va vous permettre d'apporter encore d'autres choses au niveau toujours de cette fameuse biodiversité. Parce que si vous arrivez à installer ça dans votre jardin, si ça y est pas, c'est rare que ça y soit d'emblée. Eh ben, vous aurez déjà un facteur et un microclimat vraiment essentiel à la réussite de votre jardin. Quand je dis réussite, ça veut pas dire, en tout cas, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité de ce que vous allez produire. Parce que si vous avez de la biodiversité, vous allez avoir un jardin qui va être équilibré, des plantes qui vont pouvoir s'installer correctement dans votre sol, qui vont être équilibrées aussi, dans l'harmonie, et qui, du coup, vont avoir une résistance naturelle. Et dans l'agroécologie, c'est ça qui est, je trouve, important, c'est de faire confiance à la végétation. C'est-à-dire, on n'est pas là, surpuissant, bon, là, j'arrive, là, attendez, voir que... Alors, ça, je vais le couper, ça aussi, là, je vais tout raser, là, je vais labourer, etc. On n'est pas les maîtres de la nature, hein, on en fait partie. Et quand on arrive dans un lieu, c'est voir comment, nous, on va se situer dans ce lieu-là. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va garder ou pas. Donc, on a vu l'air, on a vu l'arbre, on a vu l'eau... Le climat, bon, sûrement qu'il y a des choses qu'on a oubliées.
On a vu la topographie, on a vu les voisins, ça c'est important aussi, les voisins. Je crois qu'on a vu sur la plupart des informations sur le site en tout cas.
Il y a un truc auquel, là, je ne pense pas qu'on y soit confronté, mais quand on est un peu plus dans la nature, c'est le passage. Là, on verrait bien, par exemple, s'il y a des passages de sangliers ou de blaireaux, je ne sais pas quoi. Les animaux sauvages, comment ils circulent là-dedans ?
Bah, là, on voit des passages de blaireaux, mais ils ont deux pattes, hein, visiblement.
Voilà, mais ça, c'est le genre de choses à observer aussi, c'est qui circule dans le jardin, qui vit, qui circule, qui passe, qui profite de cet espace avant que nous, on intervienne d'une façon ou d'une autre, quoi.
Oui, parce que ce sont des énergies qu'il va falloir incorporer dans le design du jardin, ou en tout cas dans la réflexion autour du jardin, pour ne pas avoir à, encore une fois, se battre, utiliser de l'énergie pour contrer cette énergie-là, je pense.
Mm-hmm. Oui, parce que si vous faites un jardin sur le passage des sangliers, parce qu'ils vont en général toujours au même endroit, soit pour se bouger, on dit, soit pour boire, soit n'importe, ils passent toujours au même endroit. Si vous faites le jardin là, forcément, vous aurez des soucis. Si vous avez observé qu'ils passent là et que vous faites le jardin plus loin, déjà, ça ira beaucoup mieux.
Ouais, dans le cas, j'ai le jardin de mon beau-père qui est, typiquement, il est en forêt. C'est un très beau jardin, très fertile, mais il a des chevreuils, donc il a été obligé de mettre du grillage à 2,50 m, sinon il se faisait absolument tout bouffer. Mais il n'a pas eu le choix sur l'emplacement du jardin.
Oui, oui, déjà c'est ça, c'est qu'on n'a pas forcément le choix. Après, si on fait des légumes qui sont attirants, on sait que les animaux sauvages, ils préfèrent les légumes biologiques aux autres. Ça, ça a déjà été observé, mesuré et tout. Donc après, il y a plein de pratiques dont on reparlera, mais déjà on peut observer ça, quoi, si on a le choix de l'emplacement du jardin.
On va faire un tour directement dans le jardin pour voir ce qu'il y a en termes de végétation, peut-être. Allez, on va faire un tour dans le jardin.
Alors, les mégots, c'est grave, les mégots.
Alors, les mégots, là, nous voyons une trace de blaireau à deux pattes. Les mégots.
Non, mais là, c'est des cigarettes à filtre. Et on sait qu'un mégot comme ça de cigarette, ça peut intoxiquer 1 mètre cube de sol. Un mégot. Et au niveau de l'eau, il paraît que c'est pareil. Il y a eu des analyses de fait. C'est horrible, les mégots. D'ailleurs, la nicotine, c'est un des traitements qui est un jour c'est autorisé, après c'est interdit, mais c'est très fort, très puissant.
Oui, si vous voulez.
C'est un insecticide, quoi.
Si vous voulez bousiller vos pucerons, allez-y, mettez des fumeurs sur le cou.
Oui. Et si vous voulez bousiller la vie de votre sol aussi. Alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, le sol, c'est un des écosystèmes sur lesquels on va se baser l'agriculture dans notre jardin. Quoi.
Ouais. Puis d'une manière générale, en fait, je pense en agroécologie comme en permaculture, on cherchera rarement à bousiller un élément, on cherchera à rétablir le déséquilibre qui a fait que cet élément-là est venu en abondance. C'est-à-dire que si on a beaucoup de pucerons, c'est peut-être qu'il y a un déficit d'autre chose quelque part.
Ah ben oui.
Bon, allez, on va faire ce petit tour de jardin.
Déjà, voilà, là, on en est au début. Donc, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va enlever, comment on va s'organiser, quoi. Là, on peut voir qu'il y a plein de feuilles mortes.
Là, on peut voir qu'il y a plein de feuilles mortes. Donc, on observe que c'est l'automne. Non, c'est pas ça.
On observe qu'il y a des arbres, des feuilles mortes. Et donc, on sait tout de suite qu'on a une ressource en matière organique qui est importante.
Ah, c'est bien ça, si on veut couvrir le sol avec du paillage,
voilà,
ou du bois
broyé. Si on veut faire du compost, si on veut faire quoi que ce soit. En tout cas, la matière organique, là, elle est très présente. Peut-être même il y en a un peu trop étouffante. Mais c'est une ressource.
Il y a des iris. Ça devait être un jardin d'ornement avant,
oui,
cet endroit.
Oui, je pense que là, il devait y avoir... Parce que là, il y a un laurier, par exemple. Ce laurier, donc c'est pas un laurier sauce, hein, c'est un laurier...
Cerise.
Je ne sais même pas son nom.
C'est les lauriers des haies,
des bases,
quoi.
Des haies partout, là, voilà, et qui a dû être planté, quoi. Même si on en voit en sub spontané, mais là, on imagine, oui, que ça devait être un parc d'agrément, quoi.
Ça, c'est une chose importante à observer dans un jardin, selon moi, en tout cas, je pense que c'est l'historique. Oui. C'est ce qu'il y avait avant, parce que c'est pas la même chose si auparavant, c'était un atelier mécanique où il y a de l'huile de vidange plein la terre, ou si c'était un jardin qui a été cultivé pendant 40 ans par quelqu'un... Pour mettre des rosiers ou même simplement des légumes.
Ouais. Oui, tout à fait. Et là, donc, on est sur un lieu qui appartient à quelqu'un, on va dire une propriété privée, même si c'est la commune, etc., qu'elle a racheté. Elle a dû le racheter.
Titane.
Oui, je n'en sais pas plus, mais pour le moment, ça appartient à la mairie.
D'accord. Et puis, ça a l'air d'avoir été en jachère pendant pas mal de temps, quand même.
Oui, mais, ouais. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant, même quand la plupart des gens, par exemple, ils ont de la terre rapportée, quand on construit une maison, on a de la terre rapportée, bah, savoir d'où elle est rapportée, d'où elle vient. Qu'est-ce qu'elle a comme origine et tout ça. Nous, par exemple, là où on était, on avait de la terre, on trouvait qu'elle sentait fort. En fait, c'était de la terre d'un terrain où il y avait quand les cirques viennent, ils mettaient les animaux dessus, les chameaux, enfin tout ça, quoi. Et ça sentait fort et ça venait de là.
Ouais, moi, j'ai trouvé des morceaux de mâche-fer aussi dans ma terre et j'ai aucun moyen de savoir d'où elle vient, la terre précédente. Et c'est terriblement catastrophique parce qu'on voit en plus dans mon jardin l'emplacement où il y a de la terre apportée parce qu'il y a très peu de choses qui poussent dessus, parce que c'est de l'argile, c'est même pas du sol, on en reparlera plus tard. Alors que l'autre morceau qui a été cultivé pendant très longtemps par un jardinier amateur chevronné, ça donne, c'est luxuriant. J'ai eu 6 ou 7 ans de jachère, j'ai même pas besoin d'apporter grand chose pour que pouf, ça pousse en quantité impressionnante.
Ouais. C'est comme là, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a beaucoup de végétation partout, quoi. On n'arrive pas dans le désert. Hein.
Ah non, là il y a de la paille, on voit un peu de la ronce de là-bas. Enfin, de la paille, oui,
des herbes séchées,
des graminées séchées. Des graminées séchées, là-bas au fond on voit de la ronce, il y a l'air d'avoir des cornouillers sanguins. Ouais. Avançons.
Oui.
Avançons.
Alors là il y a plein de lauriers toi encore, donc ça c'est un peu une invasion. Alors après on parle des plantes invasives, mais les plantes invasives, bon, il y a différentes façons de s'en occuper. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de lauriers qui ont pris toute la place et qui en ont pris quand même trop, parce que ce n'est pas un arbre qui va apporter beaucoup, même si c'est un écosystème à soi tout seul. Et c'est surtout que ça crée de l'ombre, de l'humidité, ça attire les limaces, les escargots. Donc ici, je pense que déjà, ils doivent venir facilement. Et ça, ça va accentuer cette humidité, cette froideur et cette obscurité, quoi, on va dire, ce milieu un peu sombre.
On va un peu plus loin... On cherche à pénétrer un peu plus. Et puis alors là, il y a des ronces quand même. Hein.
Oui, on se prend les pieds dedans. Et les ronces, par contre, on a souvent des a priori négatifs donc contre les ronces. Alors qu'en fait, après un roncier, la terre est améliorée. C'est-à-dire que les ronces, elles améliorent le sol. Donc plutôt que de les voir comme dire « Ah zut, j'ai encore pris mon pantalon, là, c'est énervant, ces trucs, je vais les arracher et tout ça. » Et ben, de voir ça comme quelque chose de bénéfique parce que ça a amélioré le sol qui était là avant par rapport à ce qu'il était avant.
C'est aussi un berceau à arbres. Quand, dans certaines situations où il y a beaucoup de lapins, les ronces, ça a tendance à protéger les jeunes arbres parce que les lapins n'y arrivent pas. J'ai vu ça dans l'écosystème des monts gardés où ils ont énormément de lapins et où ils cherchent à fabriquer du sol. Et ben, les endroits où les ronces ont commencé à pousser, les arbres prennent beaucoup mieux parce que ça fait comme un grillage de protection et les lapins, du coup, ne viennent plus manger les écorces des arbres parce qu'en fait, c'est ça qui détruisait... Beaucoup.
Un tas de feuilles mortes, par exemple.
Alors, un tas de feuilles mortes.
Déjà, il y a des branches mortes, des feuilles, etc. Donc, ça me fait penser au lieu pour le compostage, qui sera aussi à déterminer quand vous arrivez quelque part. Mais déjà, peut-être qu'on va continuer pour voir. Il y a quelque chose qui est important quand on arrive aussi quelque part, c'est de voir où est-ce qu'on va laisser un coin sauvage. C'est-à-dire que la vie sauvage a besoin aussi d'espace et on n'a pas besoin d'être présent, nous, partout. Donc ça, c'est important de trouver des lieux auxquels on ne touchera pas, pour de bon. C'est-à-dire pas des endroits où on va les mettre des branches, puis après on va dire on va en prendre un peu pour le feu, puis autre chose, non. Des endroits où on laissera soit des branchages, soit enfin, ce qu'il y a. Et donc, quand on va se balader là, on va essayer de repérer quel endroit on va laisser à la vie sauvage. Quoi.
C'est ce qu'en permaculture, on appelle la zone 5, mais on en reparlera probablement plus tard. Là, en fait, on se retrouve avec un parc. Oui, vraiment, c'est un espace qui est très, très dégagé, avec environné tout vraiment de grands arbres qui sont des tilleuls, semble-t-il. Oui, c'est ça. Des tilleuls qui étaient taillés pas tout à fait en trogne, mais pas loin, en tétard. Donc, on a les grands arbres dont tu parlais tout à l'heure, ce qui est déjà assez chouette.
Il y en a des deux côtés, ça fait même des trois côtés, hein, ça fait carrément déjà une haie qui existe. Quoi.
C'est ça, c'est complètement entouré, cerné. On sent bien qu'il y avait une envie d'agrément de cet endroit-là.
On imagine des balançoires, etc. Quoi.
Et puis au milieu, une zone beaucoup plus prairiale, qui est en voie de boisement, avec pareil, des églantiers, des cornouillers...
Oui, on peut continuer à avancer, mais voilà, spontanément, moi, c'est plutôt là que je viendrais faire le jardin, quoi.
Oui, ça donne beaucoup plus envie.
Disons que après, on verra au niveau du sol, mais il y a plus les conditions extérieures. Bon, après, il y aura sûrement de la végétation à rajouter pour faire une deuxième haie, on va dire, ne serait-ce que cacher les voitures. Et puis là, on voit que la clôture propriété, elle est plus loin que la ligne des tilleuls. Donc, voir, il y a des espaces différents, quoi. Donc ça c'est toujours intéressant parce que les légumes ou même les fleurs, enfin, tout ce qu'on va faire pousser, chaque fois les besoins sont différents, les expositions, donc on pourra jongler avec ça, quoi. Il y a beaucoup de lieux différents.
On va faire une deuxième pause musicale et on se retrouve juste après. Thank you.
Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous venez d'entendre Pantin de Sel, le troisième extrait de notre disque de la semaine du groupe Noctam, les Ribains éclairés.
Et nous revoilà dans le jardin avec Titane qui, dit-elle, a une bête question. Alors Titane, c'est quoi ta question ?
Les bêtes questions, qu'est-ce que l'on garde ou on doit enlever absolument ? Comme par exemple le lierre, certains disent tu arraches tout le lierre et puis d'autres non. Et la mousse, c'est la même chose. C'est les deux choses que je retrouve dans mon jardin par exemple.
Mais c'est pas la même chose, c'est des plantes différentes et ça donne pas les mêmes indications d'une part et ça pas les mêmes usages. Par exemple, le lierre, on en voit beaucoup là qui cache la tôle pourrie, donc ça c'est très bien. Et puis le lierre, il a beaucoup d'avantages, on peut l'utiliser pour faire de la lessive, on peut l'utiliser parce qu'il fleurit très tard en saison, donc pour les pollinisateurs c'est intéressant, une saison où il y aura pas d'autres fleurs. Donc le lierre, je dirais même sur les arbres, en fait, c'est pas le lierre qui étouffe les arbres, c'est les arbres qui sont en fin de vie et le lierre pousse dessus, mais c'est pas lui qui va étouffer, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas le lierre qui tue l'arbre. Donc déjà, le lierre, il n'y a pas trop de questions, sauf s'il envahit vraiment, quelquefois il y a des endroits où c'est trop envahi et on a besoin d'avoir un peu d'espace, donc ça c'est différent. Et la mousse, par contre, elle nous indique surtout que c'est des zones très humides, asphyxiées, qui respirent pas. Et nous, ce qu'on veut avec la biodiversité, c'est favoriser la vie. Donc si on favorise la vie, forcément, on va favoriser les conditions de la vie. Et les conditions pour la vie, c'est d'avoir de l'oxygène, d'avoir de l'eau, mais pas trop, pouvoir se reproduire, vivre correctement, etc. Donc la mousse, elle est favorable à un certain milieu, qu'on ne va pas forcément rechercher quand on fait du jardin. Donc on peut peut-être garder des endroits où ça ne nous gêne pas. Par exemple, là, il y a une cabane... Bon, après, on parlera de l'aspect esthétique, mais il y a une cabane. Bon, on sait qu'au bord de la cabane, on ne va peut-être pas avoir besoin de cet espace. Où ça, justement, donc s'il y a de la mousse, ce n'est pas gênant. À la limite, on peut peut-être faire des champignons dans ce coin-là. Enfin bon, en tout cas, il n'y a rien qui est systématiquement comme ça à éradiquer. Toujours regarder à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en faire à notre profit, quoi, quelque part, en tant que jardinier. Et après, l'aspect esthétique, je voulais juste dire deux mots de ça, c'est parce que là, donc cette cabane, enfin, à mon sens, elle n'est pas belle, parce que la beauté, c'est très relatif. Mais par contre, c'est bien d'avoir un abri sur le lieu, parce qu'on pourra mettre nos outils, etc. Peut-être faire autre chose, parce qu'elle a l'air assez grande quand même, elle doit faire quoi, au moins 15-20 mètres carrés. Mais on peut la cacher, donc voir qu'est-ce qu'on va pouvoir justement garder les noisetiers qui sont autour, peut-être quand même enlever ce qui va abîmer la toiture, le laurier qui pousse contre, mais essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on pourra faire pousser comme plante grimpante, comme fleur, comme autre chose. Parce que l'aspect esthétique dans le jardin, c'est vraiment important, quoi. Quand on organise notre jardin, ce qu'on est en train de faire là, c'est déjà d'avoir une vision de comment ça pourrait être, les couleurs, les formes, etc. Comment ça pourrait, quand ce sera fini, quoi. Donc cet aspect esthétique, il est vraiment important. Et là, je regardais qu'on voit des plantes, je ne sais plus son nom, cette plante, mais c'est une plante ornementale qui fait des petites fleurs roses. Le buisson qui est là, toi,
où il y a des petites... Là, ça ne me dit rien.
Je ne sais pas son nom.
Non, moi, les plantes ornementales, je connais bien peu.
Et ça peut être sympa. Ça peut être beau, déjà. Et puis, ça peut être justement servir d'abri. Enfin, moi, je le garderai aussi. Tout ce petit bosquet, enfin bon...
Si on parlait un tout petit peu de bio-indicateurs, parce que là, tu m'as parlé du lierre, de la mousse, mais il y a peut-être d'autres plantes. Là, je pense, par exemple, au pissenlit, qui est plutôt bio-indicateur d'un terrain compacté. Le rumex aussi, qui est bio-indicateur d'un terrain compacté.
Alors, juste avant de finir, pendant qu'on est là, on voit tout le jardin, on va dire. Ce qui serait bien, c'est de déterminer à quelle zone on ne touchera pas. Donc, qui va avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire sur le plan esthétique. Eh ben, par exemple, ça pourrait être ce bosquet qui est là, au pied des tilleuls. Bon, on va dire là, on ne fera jamais rien. Ou bien on peut en avoir plusieurs, un là. Enfin bon, des lieux où on sait qu'on ne fera rien, quoi. L'espace humain, on va dire, sera organisé autour, quoi. Après, oui, sur les plantes bio-indicatrices, donc, alors le rumex, il indique une terre asphyxiée, mais aussi acide. Pas uniquement asphyxiée. Donc il y a plusieurs façons de l'interpréter, soit toujours pareil, quoi. Soit on dit ça me dérange, je l'éradique. Soit on dit ça m'indique que la terre ici elle est asphyxiée et qu'elle est tassée et qu'elle est acide, etc., etc. Donc ce coin-là je vais rien y faire. Ça peut être ça. Ou bien dire là j'ai absolument besoin parce que mon jardin est tout petit, enfin l'espace, cet espace-là j'en ai besoin. Donc on peut le contenir, on va dire, ou le supprimer de différentes façons. Par exemple, nous, on avait un champ, une terrasse entière en bordure de rivière qui était envahie par du rumex. On a fait une culture de seigle. Le seigle, c'est une graminée qui a un pouvoir racinaire, un système racinaire très très puissant. Et ben, l'année d'après, il n'y avait plus de rumex. Donc on peut agir si on a vraiment besoin de ce terrain. Il faut voir si ça nous gêne ou si ça ne nous gêne pas, quoi.
Moi, j'ai mis mes poules. Les poules, elles adorent le rumex. C'est du fourrage à poules extraordinaire.
Voilà, si t'as pas besoin. Et puis ça sert aussi, c'est une plante qui va servir aussi pour traiter certains problèmes, on va dire, certaines maladies, etc., de nos cultures. De toute façon, toutes les plantes ont un intérêt.
Bah oui, moi je le mange le rumex au final.
Voilà, on peut manger, ça dépend quel rumex c'est, etc., quoi. Donc tout dépend des besoins qu'on a au niveau de l'espace, parce que là on a quand même un grand espace. J'imaginais pas, parce que quand on voyait de la terrasse, on n'imaginait pas que c'était si grand.
Ça fait 800 mètres carrés, il me semble, d'après.
Pas plus que ça. Moi je dirais plus que ça.
Plus peut-être.
Oui, parce que regarde, la clôture elle est là.
Ça, et bien, là, au cas où, on peut aller voir sur Géoportail. Depuis le cadastre, etc., c'est possible d'aller mesurer ça. Il y a tous les outils nécessaires. Géoportail, c'est le site du gouvernement. Et il est plutôt bien fichu. Il y a aussi des cartes de topographie, par des cartes de pluviométrie de temps en temps. Il peut y avoir pas mal d'informations sur Géoportail.
D'accord. En tout cas, là, il y a un grand espace, on va dire. Et donc, après, tout dépend des besoins que vous allez avoir. Si vous êtes tout seul, si vous êtes 10. Voilà, selon le nombre de personnes qui vont manger les produits du jardin, parce que le jardin... quand même une fonction alimentaire et en fonction de ce qu'on mange, etc. Donc en gros, pour une famille de 4 personnes, on dit qu'on a besoin à peu près de 100 mètres carrés. Sans compter, on ne fait pas les céréales. Ici, on pourrait presque imaginer de faire les céréales. Si c'était une famille ici, y a largement de quoi faire un peu tout.
Oui, les gens surestiment généralement la surface nécessaire de potager à tenir pour une famille dès lors que c'est bien géré et qu'il ne s'agit pas d'une monoculture sauvage. Mais là, du coup, ça m'apporte à une autre question et une autre observation qui n'est pas forcément celle du terrain, mais qu'on peut peut-être aborder, c'est celle des gens. Parce que qu'est-ce que sur cet endroit-là, la question à se poser, c'est peut-être qu'est-ce qu'on a envie de manger à partir de cet endroit-là. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, à partir de cet endroit-là, ou qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger déjà globalement, quoi. Si on mange des tonnes de patates, ou si on mange plein de légumes différents, etc. Quoi. Mm-hmm. C'est ça. Et ensuite, si on a un petit espace, on sait qu'on va pouvoir intensifier, alors de par les pratiques agroécologiques déjà globalement, les associations, rotations, etc. Mais aussi en faisant de la culture sur but. Enfin, il y a des moyens d'intensifier sur des petites surfaces en produisant de façon écologique. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas forcément une contrainte. On n'est pas obligé non plus, si on a 100 mètres carrés, par exemple, on n'est pas obligé de mettre 100 mètres carrés en jardin. On peut garder quand même un coin sauvage, faire des cultures sur but dans un coin, faire des pratiques qui permettront d'intensifier, mais toujours partir de ce qu'on mange. Si on n'aime pas les poireaux, ce n'est pas peine de faire des tonnes de poireaux. Voilà. Mmh. Et puis là, regardez aussi les ressources, parce que là, on dit que c'est du tilleul, mais apparemment, il n'est pas ramassé. Et donc, parce qu'il en reste encore plein sur les branches, ça veut dire qu'il y a une ressource assez extraordinaire. Donc c'est une ressource aussi végétale qui va pouvoir être utilisée. Les gens vont pouvoir ramasser le tilleul, soit pour eux, soit pour faire des échanges. Donc si on a un petit terrain, mais qu'il y a quelque chose qu'on peut valoriser de cette façon-là, ben on dit, moi j'ai pas assez de place pour faire mes pommes de terre, par exemple. Mm-hmm. Mais par contre, ben j'ai du tilleul, ben voilà, je vais faire des échanges de tilleul contre des patates. Enfin, oui, avoir ce réflexe aussi de dire, on est autonome le plus possible, mais ça ne veut pas dire qu'on n'échange pas avec les voisins ou d'autres gens qui sont pas loin, parce que eux, ils pourront faire le complément de ce qu'on pourra pas faire. Parce que notre lieu s'y prête pas à cause de la terre, à cause de X raisons. Quoi.
Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des voisins sympas et conciliants, comme on le disait au début de cette émission. Mais du coup, d'observer les gens, leurs habitudes, leurs réseaux.
À partir de ça, quoi.
Mais leur budget également, leur budget temps, ça oui. peut être aussi un impact. Parce que si effectivement, un mois sur deux, vous êtes en déplacement parce que votre boulot vous emmène à l'autre bout de la terre. Bon, ça va être un peu complexe de gérer un jardin si vous êtes tout seul. J'imagine que c'est pas non plus l'idéal, qu'il vaudra peut-être mieux envisager quelque chose de groupé à plusieurs avec une rotation, ce genre de choses.
Soit ça, effectivement, de faire des échanges, soit de faire beaucoup de plantes vivaces et puis de concevoir le jardin autrement. Si on n'est pas là, on ne mange pas non plus. Programmer le jardin pour les périodes où on est là et avec des plantes qui ne vont pas demander d'arrosage, qui ne vont demander pas trop de soins, etc. Mm-hmm. Quoi. Mais c'est vrai qu'on part de ça, on part de notre façon de vivre, de notre besoin. Et puis, moi, ce que je pense quand même, c'est que le jardin, c'est un plaisir. Même si économiquement, une fois, j'avais fait un atelier là-dessus, on sait qu'on gagne de l'argent, ou en tout cas en dépensant moins en faisant du jardin. Mais ce n'est pas l'aspect économique tout seul qui va vous faire faire du jardin. Si vous n'aimez pas toucher la terre, être dans un jardin, etc., ben, ce n'est pas la peine de le faire. Quoi. C'est un plaisir d'abord, avant tout. Quoi. Et après, par-dessus le plaisir, il y a l'aspect économique. Et puis après, quand on fait l'agroécologie, ben, il y a l'aspect environnemental. Et après, il y a toujours l'aspect social, même quand ce n'est pas un jardin collectif. Parce que dans le monde des jardiniers, on va dire, les échanges de graines, de légumes, de fleurs, et tout ça, ça se fait très spontanément. Condition d'être pas tout seul, isolé, au milieu de la Creuse. Mais bon, même là-bas, peut-être qu'il y a sûrement d'autres gens aussi autour quand même.
Est-ce que tu aurais d'autres choses pour terminer cette émission dans les observations? Comme on le disait lors de la préparation, c'est une émission qui, comme la plupart des émissions de Couleur Terre, pourrait durer des heures, en fait, parce qu'on pourrait passer un temps fou. On dit que pour l'observation en perma, on parle souvent d'une année entière sur le terrain pour vérifier, voir les influences diverses et variées, le soleil à sa hauteur, le climat, etc. Là, on ne va pas passer une année à faire des émissions sur l'observation. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter?
Oui, quand même, un petit truc par rapport aux arbres qui sont présents partout. Il y a, donc là, ils n'ont pas de feuilles, etc. Mais d'essayer d'imaginer, donc si on ne peut pas faire comme tu disais, c'est-à-dire passer toutes les quatre saisons, parce que c'est vrai que c'est l'idéal, et ben, essayer de s'imaginer quand tous ces arbres vont être en feuilles, et ben, l'espace dans lequel il y aura de la lumière, tout ça, va être très restreint finalement. Enfin, très restreint, relativement. Disons que ça prendra à peu près la moitié de la largeur du jardin, en gros, quoi. Donc ça, quand on va faire notre plan de jardin, acheter les semences, tout ça, c'est souvent l'hiver. Donc si on débarque quelque part comme ça, et ben, anticiper en disant quand il va y avoir toutes les feuilles, comment ça va être, et pas commencer à se dire on va cultiver là-dessous. Voilà, le prendre en compte pour son plan de jardin, quand on imagine son jardin, quoi. Après, il y a les formes aussi, moi, je trouve, qui est important. Donc là, on a un jardin qui est rectangulaire, qui est très carré, enfin, très rectangulaire. Bon, soit on aime ça, les formes rectangulaires, donc on peut suivre les lignes et faire les planches dans ce sens-là, etc. Surtout qu'il est nord, il est sud, et l'idéal c'est d'orienter les lignes de culture nord-sud. Donc on peut faire ça, mais après on peut faire des petites tâches dans le jardin, enfin des petits endroits avec des planches par exemple, avec des couleurs. Enfin bon, imaginez vraiment tout ce qu'on veut, mais en tenant compte des formes aussi qu'on va donner aux planches, aux lignes. Est-ce qu'on va faire des cultures sur but? Est-ce qu'on va faire des formes arrondies? Sachant que dans la vie, c'est les formes de spirale qui stimulent l'énergie, donc la croissance des plantes et leur bonne santé. Donc on peut très bien imaginer aussi d'avoir une spirale qui part du centre et qui va vers l'extérieur. Enfin bref, tout ça c'est à chacun d'imaginer son jardin en tenant compte que donc là, en l'occurrence, l'espace sera moins grand que ce qu'il y paraît, quoi.
Eh bien, je te remercie beaucoup, ça tombe bien. Imaginer son jardin, on fera ça très prochainement dans Couleur Terre. On l'aura compris, prendre le temps d'observer ou bien se projeter autant que possible dans l'observation, c'est une phase importante et cruciale de votre jardin. Je vous remercie beaucoup, Titane, de nous avoir accompagnés tranquillement aujourd'hui.
Merci, Floem. Et puis, j'ai appris énormément. Rien qu'à vous écouter, là, je superpose les paroles et puis mon propre jardin. Et j'ai de quoi faire maintenant, déjà.
Et on espère que tout le monde fait la même chose de l'autre côté de son poste. Hélène, à bientôt.
À bientôt. Merci.
Merci, Hélène.
C'était Couleur Terre, une émission élevée en pépinière grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère, une émission préparée par Titane Houben et avec William Guilhem de la web radio Power Club et Laurent Forcheron à la technique, animée par Floem Sef de Radio Permaculture avec Hélène Ollard. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions Couleur Terre, cultivons la vie.